Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 734 de Touchdown Actu, épisode draft évidemment, la draft le lundi, la draft le mercredi, le vendredi, nous sommes partout, nous sommes légion, et pour m'accompagner aujourd'hui, la star Jean-Michel n'est pas là, la nouvelle vague, comme on peut l'appeler, Nitti et Tonio ne sont pas là, c'est un vétéran qui nous rejoint. C'est le père de la draft chez Touchdown Actu, presque grand-père, hein, on y est presque. C'est Grégory Richard. Bonjour à toi, Grégory.
Salut Victor, bonjour à tous. Comment me filer un coup de vieux, moi qui ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps? C'est très très gentil à toi.
Oh bah écoute, bon anniversaire. C'est gentil, ouais. Pour le coup, je pense que tu es plus jeune que moi en plus. Enfin, ou en tout cas, ça ne doit pas jouer à beaucoup.
On gardera le mystère pour les auditeurs.
Exactement.
Et en plus... trop vieux pour la draft, on sait que c'est un sujet majeur pour toi.
Ah bah là, tu sais que je me suis rendu compte qu'il y a des prospects qui sont plus proches de l'âge de mes enfants que de mon âge. Et ça, je dois t'avouer que ça me fait un peu mal. Bref, on ne va pas faire un round the NFL, on ne va pas disserter pendant 10 minutes. On vous a réservé un beau cadeau pour le retour de Grégory, puisque c'est probablement la meilleure la meilleure position qu'on va avoir à cette draft. C'est la position de receveur. On peut dire, et je ne prends pas beaucoup de risques, Grégory, que au moins les 6 premiers dont on va parler peuvent postuler au premier tour.
Oui, clairement. Alors, je ne sais pas si on peut prendre position clairement, mais c'est une des positions les plus glamour de cette classe, très honnêtement. Et c'est souvent une tendance ces dernières années, si je me permets de rebondir un peu sur ce que tu dis. Il me semble que sur les dernières campagnes, il y a eu 2017, 2020 et 2022, où on a eu 6 receveurs sélectionnés au premier tour de la draft. On peut, en effet, pour rejoindre ce que tu disais, surfer sur cette même vague cette année, largement.
Et d'ailleurs, on l'a vu hein, avec l'interview du coach des Titans, Callahan, qui, alors qu'il a une ligne offensive un peu en miettes, a dit « Moi, vous savez, si j'ai le choix entre un top receveur et un top lineman, je prends un top receveur. » Et c'est vrai que c'est aussi caractéristique d'une façon de penser qui n'était pas forcément celle de la NFL il y a encore…
En même temps, il vient de Cincinnati, hein. On a eu ce débat avec Jamar Chase, sélectionné à l'époque à la place de Penei Sewell. Donc voilà, manifestement, c'est assumé jusqu'au bout.
Bah, il y en a qui gagnent le Super Bowl avec Marquez Valdes-Scantling, Rashi Rice et Mecole Hardman. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. On va y aller tout de suite avec un joueur dont on a déjà parlé dans 2 podcasts. C'est le 3e, mais encore une fois, on essaye de vraiment refaire tous les joueurs pour ceux qui n'ont pas pu suivre pendant la saison. Il est incontournable, c'est le numéro 1 sur quasiment tous les big boards, ou numéro 2 au maximum, c'est Marvin Harrison Jr., le fils de, pas forcément le même joueur d'ailleurs, Grégory, est-ce qu'on est sur l'incontestable joueur générationnel, meilleur joueur de cette QV, etc., etc.
Alors, je sais que tu les adores, donc forcément, on est sur un joueur générationnel. Très honnêtement, ça fait partie de ces joueurs. Alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je me suis exprimé à de nombreuses reprises concernant Marvin Harrison sur différents podcasts. Pour moi, c'est le meilleur receveur de cette classe. Pour moi, c'est le meilleur joueur intrinsèquement de cette QV. Donc, ça va pas plus loin que ça, entre guillemets. Il a très très peu de défauts globalement. Peut-être si on commence par là, peut-être un manque de comment dire, il manque peut-être ce côté incisif après réception, éventuellement, cet instinct un petit peu de tueur une fois qu'il a la balle en main. Mais il a une telle facilité à être trouvé par le quarterback, une telle capacité de tracer, des mains globalement fiables. Vraiment une capacité à être constamment en mouvement et à pouvoir s'adapter à n'importe quel cornerback en face de lui, que ça peut être une menace absolument partout sur les trois niveaux, comme on aime bien dire, et que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur du terrain, c'est un joueur qui est extrêmement pénible à marquer absolument partout. Et on a souvent vu ces derniers mois du côté de Ohio State la différence quand il était sur le terrain et quand il ne l'était pas, alors que paradoxalement, on avait d'autres receveurs de talent du côté de Columbus. On a quand même senti un impact extrêmement notable de sa part. Et c'est ce qui peut être amené à se poursuivre du côté de la NFL. Je ne sais pas trop ce que tu as en comparaison, par exemple. Alors, c'est pas l'exercice que je préfère, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à un espèce de nouveau Larry Fitzgerald dans sa manière d'évoluer, je trouve.
Je suis assez d'accord avec ça. Il est absolument incroyable. Hein. Toutes tes statistiques avancées sont absolument incroyables. Par exemple, je regardais un peu les rapports de Pro Football Focus. Sa note dans les couvertures simples, donc vraiment dans les duels avec le défenseur, il a tout simplement la meilleure note que PFF n'ait jamais enregistrée. Ouais, tout simplement. Donc, on est sur un phénomène. Il a l'arbre des tracés qu'on veut. Je trouve qu'il est tellement agressif dans le bon sens du terme et très physique. C'est là où il est très différent de son papa, pour le coup. Que par exemple, sur un 50-50 ou autre, il arrive vraiment à s'imposer assez facilement, même contre des joueurs vraiment physiques. Il a une qualité de tracé qui est extraordinaire, vraiment. Et que ce soit un tracé court, un tracé intermédiaire, même un tracé long. Et je trouve aussi. Et alors, c'est peut-être un détail, mais il est excellent bloqueur aussi. Et on sait que dans certaines équipes, c'est important. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Non seulement je pense que, en effet, c'est le meilleur joueur de cette draft. Et si jamais, par exemple, Chicago, ça ne sera sûrement pas le cas, hein, mais choisissait de garder Justin Fields, moi, je ne serais même pas choqué s'il restait en numéro 1 pour prendre Marvin Harrison. Je veux dire.
C'est ma vision des choses également. Enfin, c'est plus ou moins ce que j'avais dit, mais c'était une mock
Oui.
draft sans échange qu'on avait fait sur le site, mais celle que j'avais réalisée à l'écrit. Oui, c'est plus ou moins la vision que j'avais. Si j'insiste sur les quelques petits bémols, alors c'est pas vraiment un bémol persistant à mon sens. Il y a quand même 6 drops en 2023, ce qui n'était pas forcément coutumier de sa part lors de ses premiers mois à Columbus, notamment en 2022. C'est plus des drops de concentration à mon sens. Voilà, c'est peut-être là aussi des petits éléments à corriger, mais vraiment on parle pour c'est vraiment des éléments pour pinailler parce que globalement il a la vitesse, il a le physique, il a la technique, il a tout ce dont a besoin aujourd'hui un receveur moderne à 6'4", donc ça va être un bon 1m93 aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est un receveur qui va pouvoir s'adapter à l'exigence du haut niveau et c'est ce qu'en fait pour moi un no-brainer, un choix sans aucune hésitation possible.
Effectivement, on a fait un peu long, mais c'est vraiment le phénomène. Il fallait qu'on en parle. Et pour le coup, parfois tu fais des drops aussi quand ton quarterback est un lanceur de saucisse. Mais ça, c'est un autre débat. Notre numéro 2, il s'appelle Malik Nabers. Il est de LSU. LSU, ces dernières années, c'est plutôt pas mal pour nous fournir du receveur. Écoutez, moi je vais dire tout de suite, dans mon big board global de toutes les positions, il est numéro 2 derrière Marvin Harrison. Et globalement, je trouve là aussi qu'on est sur un joueur, alors un joueur moins grand, certes, peut-être un tout petit peu moins physique, mais malgré tout, sur les 50-50, il est là. C'est un joueur ultra polyvalent, il peut jouer partout, il peut transformer une passe écran en gros jeu, il peut faire des tracés longs. Il est très propre dans la manière dont il court ses tracés. Il va gagner des yards après la réception, il va faire manquer des plaquages, et on a l'impression que cette énergie, il l'a vraiment du début à la fin. Globalement, moi, je n'ai pas tellement de mauvaises choses à dire. Je dirais que forcément, bah, ce n'est pas un joueur qui est à 1m95, donc parfois en presse, ça va être un tout petit peu plus dur. Et peut-être qu'il n'a pas forcément cette capacité à attraper les ballons dans toutes les positions comme d'autres ont. Ce n'est peut-être pas le côté funambule que peuvent avoir d'autres joueurs. Mais globalement, moi, je trouve qu'on est là encore sur un joueur qui mériterait top 5 et qui peut devenir un top receveur de cette ligue. Grégory, on est sur la même vision ?
Oui, c'est vrai que si on regarde globalement, je suis pas loin de me dire qu'en effet, c'est peut-être le deuxième meilleur joueur de cette classe. L'écart, en tout cas, n'est pas si énorme que ça avec Marvin Harrison. Ça a beaucoup prêté à débat, justement, tout au long de la saison, cette différence un petit peu entre l'un et l'autre. Mais comme tu le disais, c'est deux profils totalement différents. On est sur une classe, il faut un petit peu le dire, hein, entre guillemets, sur une classe de receveurs un peu girafe. Hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs à au moins 1m88, 1m90. Bah forcément, Malik Nabers, il est un peu plus petit, il doit être à un bon 1m83, 85, si je ne me trompe pas.
Il est à 6-0, donc c'est entre 83 et 85. Ouais.
Voilà, donc honnêtement, ce n'est pas non plus un abo sur le poste de receveur, mais il va jouer en effet sur d'autres armes. En effet, ce n'est peut-être pas celui qui va s'en sortir le mieux sur les réceptions contestées, par exemple, sur les jeux en presse, mais il est capable de faire énormément de choses, comme tu l'as dit. Il a des appuis absolument phénoménaux. En effet, tu parlais de sa capacité de plaquage. Je trouve que c'est un comment m'exprimer, j'allais dire c'est un faux mince ou un faux petit. C'est vraiment le type D'accord. de receveur un peu trapu que en effet il faut réussir à stopper, qui est constamment en activité, que ce soit avant ou après la réception. Et c'est ça qui le rend extrêmement pénible à couvrir pour un DB, et même tout simplement à poursuivre pour un défenseur plus globalement. Donc voilà, c'est cette complémentarité, c'est ce profil complet plutôt, et cette polyvalence qui forcément en font un joueur extrêmement courtisé dans le top 10 de la draft, voire dans le top 5 selon la situation des quarterbacks.
Eh bien écoute, notre cher Daniel Jeremiah, un des journalistes les plus connus dans le processus draft, a sorti son top 50 la semaine dernière, je crois. Et dans le top 4, on a trois receveurs. Harrison, Nabers dont on a parlé, et on a également en numéro 4 de mémoire, Rome Odunze, le receveur de Washington. Washington qui a trois receveurs qui vont être considérés pour la draft, mais clairement, il y en a un qui est un peu au-dessus des autres. Grégory, je te relaisse la parole. Rome Odunze, est-ce qu'on est toujours dans cette catégorie des mégastars ? Est-ce qu'on est un tout petit peu en dessous ? Et qu'est-ce qui fait justement qu'on a ce joueur-là dans le tir 1 ?
Alors c'est très particulier en mode Onze, parce que à titre personnel, c'est un joueur que j'aime beaucoup, parce que là encore, il a énormément de cases, on va dire, qui sont cochées dans l'esprit des scouts NFL. Il y a là encore ce gabarit assez impressionnant. On est sur un joueur à 6-3, donc à au moins 1m90. Vraiment une capacité là aussi à être assez rapide. C'est un ancien coureur, il me semble, c'est un ancien athlète, hein, un ancien coureur d'athlétisme. Donc vraiment la rapidité il l'a, avec de nombreuses compétitions auxquelles il a participé. Il a cette capacité également à répondre aux défis physiques, comme on le disait, et il a ce fameux, ce qu'on appelle le catch radius, c'est-à-dire cette capacité en toutes circonstances presque au duel avec son défenseur à ne jamais être perturbé, à être systématiquement à se donner une certaine amplitude pour pouvoir réceptionner le ballon suffisamment, et ça c'est important. Ça l'était quand on se réceptionnait avec un pied en college football, ça le sera encore plus quand il faudra poser les deux pieds au sol pour valider une réception en NFL. Ce qui m'embête un petit peu avec Rome Odunze, c'est ce côté parfois un peu suffisant. Voilà. Et ça se ressent presque un peu en conférence de presse, où il est très intéressant à écouter, mais où tu sens qu'il a ce côté, bon, je suis sûr de ma force, je sais ce que je vaux, et parfois c'est un peu paradoxal, parce qu'on a l'impression que c'est un joueur qui va, là encore, un petit peu comme Marvin Harrison, pardon, se reposer un peu sur ses acquis après réception. Et j'ai presque l'impression que, paradoxalement, malgré les qualités qui sont les siennes, sur le jeu profond, il pourrait être plus incisif que ça. Et pourtant, dans une équipe de Washington qui a joué très verticalement ces dernières années en college football, il a été mis à contribution. Et on voit malgré tout que dans le jeu vraiment purement profond, bah, il n'a pas toujours donné entière satisfaction. Principal symbole de ça, c'était la finale nationale. Mais bon, dans un match où Michael Penix, son quarterback, n'était pas non plus à la fête. Mais voilà, il y a ces éléments-là qui peuvent éventuellement amener à se dire que, comme Harrison et Neighbors, il a des qualités à mettre en avant, mais que malheureusement, il n'a peut-être pas mis toutes les armes de son côté pour l'instant pour pouvoir s'affirmer comme un top 5, puisque je ne suis pas sûr qu'il rentre dans cette catégorie, contrairement à Daniel Jeremiah, voire un peu plus bas.
Oui. Après, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans une autre année, il aurait pu être receveur numéro un de la classe et ça aurait pas choqué. Là encore, enfin, on va dire un peu toujours la même chose, mais excellent coureur tracé, un arbre des tracés qui est assez qui est assez global, plutôt fiable en réception. Capable d'avoir des changements de direction. J'ai vu qu'il était un peu critiqué sur certains sites sur les changements de direction. Moi, je
C'est
trouve
pas ce
que
qui me
c'est.
choque.
Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était plus que sympathique. C'est plus ce côté. Pareil, yard après réception. Tu disais que Mike Nabers jouait un peu plus physique qu'il n'était. Bah, lui, je trouve qu'il joue un peu moins physique qu'il n'est.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que ça rejoint ton analyse de dire le côté un peu. Il pourrait en faire encore plus, ce qui est terrifiant parce qu'il est déjà à un excellent niveau. Mais on se dit, est-ce que vraiment il a atteint le maximum? Voilà, ces genres de joueurs, ça va être très intéressant à développer. Je suis d'accord avec toi que je ne vois pas dans le top 5. Je pense qu'il y a quand même un tout petit monde avec les autres, même si je ne serais pas étonné qu'il passe devant un Nabers pour une raison X ou Y. Mais malgré tout. Ouais, c'est un incontestable de tier 1 et honnêtement, ces trois-là sont quand même au-dessus
Au-dessus
des
du panier,
autres
ouais.
pour moi.
Si je devais te prendre une petite fourchette d'un point de vue, ce qui peut donner en NFL, là encore sur le côté comparaison, il y a des similitudes, je trouve, entre un AJ Green et un Braylon Edwards. Donc, si vraiment il arrive à se développer au maximum, ça peut être un AJ Green. S'il reste un petit peu en dilettante comme il a été, on peut avoir des saisons un peu en demi-teinte comme on a vu avec l'ancien joueur des Browns et des Jets.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, moi j'avais vu des comparaisons qui sont passées avec Chris Olave. Je trouvais que c'était partiellement vrai, mais c'est vrai que ça donnait une illustration un peu du type de menace qu'il peut être. Après, c'est pas encore exactement le même joueur. On va arriver dans le tiers 2. Et alors, pour le coup, dans le tiers 2, moi, il y a un joueur qui fait un peu débat pour moi. Et. On l'avait mis en premier nom du tier 2 parce que c'est quand même un joueur qui a été beaucoup regardé. C'est Keon Coleman de Florida State. Keon Coleman, là encore, on parle d'une montagne. Athlétiquement, c'est extraordinaire. Lorsqu'il s'agit de gagner des 50-50, bah, c'est évidemment très bon. Lorsqu'il s'agit d'aller marquer des touchdowns, donc dans la zone rouge, il est fiable, c'est quasiment un tight end dans ces situations-là. Donc, pour le coup, le côté monstre physique, je suis d'accord avec ça. Après, moi, ce qui me dérange un tout petit peu, bon, déjà, il a un arbre des tracés qui est assez limité, mais ça, c'est pas forcément de sa faute, ça peut être aussi de la faute de Florida State. Mais voilà, c'est un joueur un peu binaire. Et je trouve que globalement, en termes d'agilité et de vitesse, il n'est pas extraordinaire, en fait. C'est un peu un Alshon Jeffrey du pauvre, pour moi. C'est peut-être un peu violent dit comme ça. Il faut se rappeler que Alshon Jeffrey, quand même, dans son prime, c'est un sacré joueur de football. Hein. Voilà, moi je suis. Keon Coleman, je comprends pourquoi on le met en tier 2. Même si ça ne serait pas forcément mon avis, mais c'est clairement le consensus. Moi, je trouve que c'est typiquement le receveur numéro 2, la sorte de semi-soupape de sécurité que tu utilises sur des tracés spécifiques et en zone rouge. Et du coup, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'investir un premier tour sur un joueur aussi limité dans son utilisation. Est-ce que tu me rejoins ou est-ce que tu es un peu plus dithyrambique que moi sur Keon Coleman?
Absolument pas, je te rejoins sur énormément de points. Je pense que c'est le receveur le plus polarisant de cette draft. Parce qu'il y aura en effet, là on est typiquement sur le profil de joueur qui fait avant tout saliver. Et je pense qu'on prend on prend certaines références, en effet, on se dit waouh, voilà ce qu'on peut en avoir. J'ai en souvenir notamment le match de Florida State à Clemson, où en effet, il a un rôle prépondérant, notamment en fin de match. Enfin, je me demande si c'est pas au duel d'ailleurs avec Nate Wiggins, un des principaux corners de cette classe, mais j'ai un doute là-dessus. Où vraiment, il va chercher les catchs décisifs pour donner la victoire à Seminoles en prolongation, de mémoire. Il y a des matchs, en effet, où il est capable de prendre feu, où en effet, on voit cette différence athlétique et tout simplement physique avec ses adversaires directs. Mais à mon sens, voilà, comme tu disais, ça cache un peu trop de choses. Là, on est clairement dans l'arbre qui cache la forêt. Et en effet, je ne t'apprends rien, mon cher Victor. Quand tu es un roi du catch contesté, ça veut dire aussi que tu n'es clairement pas un roi en termes de séparation. Et quand tu as aussi peu de connaissances des arbres de tracé, les tracés qu'il a fait le plus du côté de Florida State, c'est des screens. Ça en dit long sur la vision, on va dire, technique avec laquelle il va être capable de s'adapter face à des cornerbacks d'un tout autre niveau en NFL. Et c'est là où je me dis, à minima, il va lui falloir en effet un gros temps d'adaptation, je trouve. Parce que du côté de Florida State, au final, tu regardes sa saison, il n'y a que 3-4 matchs vraiment où il sort du lot. Les autres rencontres, dans une saison pourtant où Florida State a fini l'année, la saison régulière, à minima invaincu, c'est pas celui qui a le plus crevé l'écran.
Je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'appelle ça syndrome Edgy Brown. Parce que Edgy Brown, aujourd'hui, c'est un des rares, voire le seul top, top receveur qui crée très peu de séparation et qui gagne ses 50-50 assez régulièrement. Sauf que pour un mec qui réussit comme ça, il y en a 50 qui échouent, quoi. Donc, se dire, ah, je suis sûr que ça va être le prochain Edgy Brown ou DK Metcalf, dans une... même si DK Metcalf, là, on est carrément sur le top-top athlète, un peu,
Mais
un peu
c'est aussi ce qu'on en
flippant.
fait des deuxièmes tours de draft. C'est aussi pour ça que je dis que c'est
Oui,
polarisant.
bien sûr,
Ça peut être un
bien sûr.
top 15 pour certains parce qu'on se dit waouh, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose à terme. Et d'autres équipes qui, je pense, vont carrément se dire, vu la classe de receveur, pour nous, c'est un troisième, quatrième tour.
Bah, DK Metcalf, il est annoncé au premier tour et puis finalement il finit en 64 ou un truc comme
C'est
ça.
ça.
Donc bon, c'est sûr que ça peut arriver. Notre prochain candidat, il vient de l'université d'Oregon. J'allais dire, il vient de la Pac-12, mais la
De
Pac-12
la
est
feu
morte.
Pac-12, tout à
La
fait, ouais.
feu Pac-12. Écoute, maintenant avec les réunions, je sais même plus où ils sont. Ils sont quelque chose entre la
Oregon, ils
Big
sont dans la Big
Ten,
Ten
la
maintenant. Ils
SEC,
sont dans la Big
ouais, la
Ten.
Big Ten, ok. Ce qui est tout à fait logique géographiquement. Oregon. Écoute, Troy Franklin, c'est un joueur que je trouve très particulier. Et là encore, il y a un truc où je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. C'est que, si vous voulez, il est rapide. Il est très rapide. Il est explosif. Il est très explosif. Et du coup, il a joué quasiment exclusivement, j'abuse quand je dis exclusivement, mais il a joué énormément de tracés profonds. C'était vraiment la menace verticale de l'équipe. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il ne sait faire que ça, ou si c'est parce que Oregon n'avait besoin que de ça, en fait. C'est un peu la discussion que j'avais eue avec Léo Chenal entre l'utilisation d'un joueur et ses capacités. Mais en tout cas, on est sur un joueur très fiable, qui a des bonnes mains, qui n'est pas le plus athlétique, mais je voyais qu'il y en a qui disaient il est trop fin et tout. Enfin, je veux dire, je n'ai pas
Bah,
l'impression non plus.
c'est vrai qu'il a un physique atypique. Pour le coup, là encore, on est sur un receveur qui est très grand. Sa grande différence avec les autres receveurs de cette classe, c'est qu'en effet, il y a un profil qui est un peu plus longiligne. Et forcément, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait de peut-être pas l'avoir utilisé dans d'autres situations que celle principalement de jouer des tracés go, des tracés très verticaux, bah, ça fait que forcément, bah, sur le duel en homme à homme, sur des confrontations face à des press corners, on ne sait pas vraiment ce qu'on va obtenir avec Troy Franklin. Et c'est ça aussi qui pose problème. Je pense qu'il sera il est un peu plus polyvalent que ça. Je pense que dans le jeu intermédiaire, tu l'as dit, il y a des bonnes mains, même s'il y a beaucoup de drops là aussi en 2023. Je crois qu'il y a 9 ballons relâchés, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Je crois que sur les 9 joueurs qu'on cite, c'est peut-être le plus grand nombre de tout ce ratio. Donc ça, c'est à corriger. Mais honnêtement, enfin, c'est un joueur qui a des tels changements d'appui, qui est capable vraiment de jouer, comme tu l'as dit, sur une vitesse assez soudaine pour prendre le dessus sur son adversaire direct, qui a une bonne capacité de tracer malgré tout, à mon sens, parce que ça me paraît un peu plus varié, par exemple, que Keon Coleman, dont on parlait tout à l'heure. et peut-être un autre genre dont on va parler aussi par la suite. Mais oui, je rejoins tes inquiétudes, mais c'est vrai que ouais, c'est difficile d'occulter ce profil très longiligne. Moi, dans son style de jeu, il me rappelle beaucoup, par exemple, un Torrey Smith qui a joué il y a quelques années du côté de Baltimore, sauf que bah, Torrey Smith était plus petit et plus costaud. Donc c'est là aussi où tu te dis qu'est-ce que ça peut donner concrètement en NFL? C'est là où j'ai un peu plus de questions qui me viennent à l'esprit.
Oui, Torrey Smith, champion en effet, d'ailleurs, avec les Philadelphia Eagles. Non, je suis d'accord. Après, vraiment, c'est lui, ça fait typiquement partie des joueurs où j'espère qu'il va tomber dans un coaching staff qui saura l'utiliser, quoi. Parce que si c'est pour être utilisé à la Tyquan Thornton, bon, t'as pas forcément envie. J'ai trouvé
Tu peux
malgré
mettre
tout.
à Buffalo avec un Stephon Diggs hein, pour remplacer un Gabriel Davis, c'est pas déconnant. Hein.
C'est pas déconnant. Bah, vu le canon du bras de Josh Allen,
Ouais.
moi, je trouverais non seulement pas ça déconnant, mais je trouverais ça séduisant. Parce que là, ça peut devenir DeSean Jackson. Hein. Ça peut devenir vraiment la menace verticale ultime. Donc, c'est vrai que c'est voilà, il faut vraiment que ce soit dans le bon système, mais je pense qu'il peut faire des choses. Et même, j'ai trouvé que sur les. Il est tellement explosif qu'il fait une bonne séparation même au début du tracé. Et tu vois, comme joueur de run pass option, tu vois, le joueur qui fait la sente, le joueur un peu la cible dont tu dois décider en moins d'une seconde si elle est libre ou pas, je trouve qu'il peut avoir un avenir aussi. Donc, globalement, assez intéressant comme profil. On peut en faire beaucoup de choses. Et on va finir ce tier 2 avec, je vous donne en mille, un joueur de LSU, hein, parce qu'un joueur de LSU peut en cacher un autre. On vous rappelle que Joe Burrow avait à sa disposition Ja'Marr Chase et Justin Jefferson, hein, ce qui est quand même pas trop trop mal. Là, on n'est peut-être pas au niveau de Justin Jefferson, quoique il y a quelques similarités en termes de processus draft. Je vais y revenir. On va parler de Brian Thomas. Donc là encore, on est sur un joueur très très grand, très rapide, capable d'attraper le ballon dans beaucoup de belles situations, un joueur très bon sur les tracés profonds. Joueur, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, si vous vous souvenez, Justin Jefferson, quand il a été drafté, la question c'est oui, ça a l'air d'être un joueur uniquement de slot, et puis c'est un joueur uniquement situationnel, parce qu'à LSU, il faisait que ça. Et bah, pareil, Brian Thomas, finalement, à LSU, il y a un moment, c'est presque frustrant de voir des joueurs bridés comme ça, alors que globalement, si vous regardez sa ligne des tracés, vous avez 35 tracés en each, donc c'est un tracé qui est quand même déjà un tracé assez long, 14 en go, donc là, vous avez tout droit, et globalement, il n'y a aucun autre tracé où il en a plus de 10, quoi. Et tu te dis vraiment, c'est presque terrible d'être utilisé à ce point que d'une manière. Alors, c'est caricatural. Malgré tout, je trouve que pour ce qui est de Thomas, il est beaucoup moins unidimensionnel que son utilisation ne le laisse paraître. Et pour comparer par rapport à un Franklin ou à un Coleman, je pense que lui peut vraiment jouer sur un peu tous les tableaux. Donc là encore, en fait, ça va être un risque. Parce qu'il a peut-être un potentiel de dingue qui n'est pas exploité, ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'il était vraiment limité.
Alors là encore, j'ai des points d'interrogation sur Brian Thomas. Je trouve que le talent est indéniable. Et en effet, tu le disais, c'est vrai que malheureusement, il était un petit peu dans cette attaque. Alors pas caricaturale, mais c'est vrai qu'il y avait un plan de jeu qui était assez bien établi du côté de LSU. À savoir Malik Nabers dans le jeu intermédiaire qui jouait beaucoup sur sa vitesse après réception. Et Brian Thomas qui jouait avant tout sur sa vitesse avant réception pour ensuite faire des différences verticalement. Donc c'est sûr que. Ça donne le tournis, c'est le meilleur réalisateur de touchdown, il me semble, en college football en 2023. Donc ça, c'est voilà, c'est difficile à occulter. Il y a de l'efficacité, très honnêtement, même dans un rôle qui était un petit peu trop prédéfini, à mon sens, pour lui. Je trouve qu'il y a des similitudes avec Troy Franklin, et c'est aussi pour ça que je trouve que les deux joueurs se divisent un petit peu. Il y en a beaucoup qui mettent Franklin devant Thomas, d'autres qui mettent Thomas devant Franklin. Je pense qu'il y a les mêmes inconvénients, justement, sur le fait qu'on sait ce qu'on en obtient sur le jeu profond. Je pense que à la différence, c'est que concrètement, Thomas, c'est pas forcément sur le physique pour lequel on a des interrogations sur sa capacité, par exemple, à être en homme à homme contre des corner press. C'est plus d'un point de vue technique. C'est que c'est là, en effet, où il faut voir comment il va être capable d'adapter ses tracés, comment il va être capable d'adapter ses mouvements, on dira, ses changements de direction, pour réussir à prendre le dessus. Parce que très honnêtement, c'est des tracés très, très basiques, globalement, qu'on lui a demandé de réaliser du côté d'LSU. Et c'est là, en effet, s'il veut devenir un receveur numéro 1 et prendre l'exemple de Justin Jefferson, qui va devoir progresser parce que malheureusement, ce n'est pas ce qui saute aux yeux pour l'instant. Et c'est ce qui est aussi entre le fait de se dire, est-ce que c'est un premier, est-ce que c'est un deuxième tour? Je pense qu'il a une marge de progression beaucoup plus intéressante que Troy Franklin, mais il y a quand même ces éléments à gommer et ce point de vue technique, à mon sens, à identifier pour son futur coaching staff.
Je suis d'accord avec ça. Je regardais du coup le top 5 des receveurs en termes de touchdown la saison dernière. Donc, on a en 5 Nabers, en 4 Franklin, en 3 Harrison, en 1 Thomas et on a en 2 Jane Royals de Utah State. Hein. Je dois avouer que
Vous en faites ce que vous voulez.
j'avais pas forcément vu venir, mais voilà, c'est une information, je vous la donne. Voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est Brian Thomas, il y a un côté. Moi, vraiment, je trouve que ces joueurs-là, c'est tellement difficile de donner un vrai avis. Il y a tellement de questions. Là encore, tu vois, franchement, tu me dis il a été pris en 25 par je ne sais pas qui. Je ne suis pas surpris. Tu me dis il est tombé jusqu'en 45. Bah, je ne vais
Ouais,
pas tomber de ma chaise non plus. C'est
et dans
une
cette
prise de
classe-là,
risque.
c'est typiquement le genre de joueur qui va sortir entre le 20 et 25e spot, je pense. Surtout vu cette classe de receveurs et globalement la QV en général, je pense qu'en effet, il y a une équipe qui peut se dire, bon allez, c'est maintenant, on a envie de tenter le coup sur ce type de profil-là. Et en soi, ça peut valoir le coup, puisqu'on parle d'un joueur qui, en tant que receveur numéro 2, voire 3 dans l'équipe où il tombe, sera une très très bonne opportunité au cours de son année rookie. Donc voilà, après, encore une fois, c'est ce que je dis. Sur le court terme, je ne m'inquiète pas forcément dans l'utilisation qu'on en aura. C'est plus après, à moyen et long terme, concrètement, ce que tu vas pouvoir en tirer, le fameux plafond dont on n'arrête pas de parler, savoir concrètement jusqu'où tu peux l'emmener, malgré ce que tu en envisages, pardon, sur le papier.
Je suis d'accord avec toi. Eh bien, ça conclut notre tier 2. On va passer dans notre tier 3 et on va commencer par un joueur. Alors là, je dois avouer que c'est un joueur j'aime beaucoup parce que si les gens regardent des stats, on va parler de Ladd McConkey, qui est un joueur des Georgia Bulldogs. Si les gens regardent des stats en carrière universitaire, ils vont voir 447 yards, 762 yards, 483 yards. Alors évidemment, il n'a pas joué tous les matchs loin de là cette année. Hein. Mais 5 touchdowns, 7 touchdowns, 2 touchdowns. Écoute, on a un joueur sur le papier, si tu ne regardes pas les matchs, etc., qui ne te saute pas aux yeux, sur un plan statistique. Et pourtant, la plupart des analystes sont, on va dire, au deuxième tour, pour être à peu près global. Vous pouvez avoir un peu plus haut, un peu plus bas, mais c'est à votre guise. On parle d'un joueur qui, j'ai adoré ce petit truc, qui, dans son équipe de high school, donc avant de rejoindre l'université, jouait quarterback, running back, defensive back, punter et returner. Et je trouve qu'un joueur qui peut jouer punter, c'est jamais négligeable. Grégory, raconte-nous un peu, parce que je trouve génial Ladd McConkey. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un joueur si peu, avec plein de guillemets, productif en université, peut autant plaire aux scouts NFL?
Tout simplement parce que c'est un joueur qui reste malgré tout très menaçant et très suivi. Pour la petite histoire, hein, faut bien préciser, Georgia a donc été champion universitaire en 2021 et 2022. 2021, ça a été la première année à Georgia de Brock Bowers et de Ladd McConkey qui ont littéralement à eux deux transformé cette attaque de Georgia. Alors c'est sûr qu'en effet, bah forcément de fait, et ça fait un petit peu écho à d'autres podcasts que vous avez déjà entendus, et à la QV globalement, Brock Bowers était la menace principale aérienne du côté de Georgia. Mais ce qui était intéressant avec Ladd McConkey, c'est que sans être forcément la principale cible du côté des Bulldogs, on voyait qu'ils faisaient tout et très bien. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il ait occupé différents postes par le passé, ça prouve bien que c'est un véritable athlète. C'est un joueur extrêmement rapide, c'est un joueur qui a de très bonnes mains, c'est un joueur avec un excellent QI football. Et je trouve en plus que c'est un joueur qui, Certes, avec son déficit de taille, puisqu'il doit être à 1,78, je crois, en termes de taille, je ne vais pas dire de bêtises. Il doit être entre 1,78 et 1,80. Même si c'est clairement pas le receveur le plus grand, même si ce sera forcément par rapport à la classe qu'on évoquait, le receveur le plus imposant de cette classe, et ben je trouve que c'est un joueur qui arrive à dépanner dans beaucoup de situations. Forcément, ce sera principalement un slot receiver, parce qu'il a cette capacité, ces changements d'appui, cette accélération soudaine. Qui permet notamment d'aller chercher des premières tentatives en cascade, et il l'a déjà démontré du côté de Georgia. Mais je trouve en plus que cette vitesse, il est capable aussi de l'exploiter sur du jeu profond, sur certaines séquences. C'était notamment très, très souvent symptomatique en 2022 avec Stetson Bennett et à l'époque Todd Monken en tant que coordinateur offensif. Il avait cette capacité notamment sur certains jeux, sur certaines play action, à pouvoir passer dans le dos de la défense et pouvoir faire mouche. Ce sera peut-être moins évident avec les cornerbacks qu'il va rencontrer en NFL, mais en tout cas, je trouve que cette variété-là, de par, encore une fois, ses qualités athlétiques intrinsèques, il est capable de les mettre en action et c'est ce qui en fait, à mon sens, le slot receiver le plus polyvalent et peut-être le plus précieux de cette QV.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Alors, McConkey, c'est vrai qu'il y a un côté fantasme autour de lui, fantasme au sens premier du terme. Restons sur de l'analyse footballistique. Dans le côté, qu'est-ce qu'il pourrait donner? Oui, alors il y a le côté boîte à outils. Il y a toujours un ou deux joueurs dans une draft qui sont capables de jouer running back, receveur, retourneur, tout ça, et on dit oui, c'est un couteau suisse, il va aider partout, sur toutes tes tentatives, sur tous les schémas de jeu, etc. On verra, c'est pas toujours le cas, mais je suis assez d'accord avec toi que globalement, c'est rare de voir un joueur aussi rapide et explosif. C'est un pur joueur de saut, hein, c'est comme un Christian Kirk, par exemple, des joueurs qui sont destinés toute leur vie à jouer dans le slot, et ça n'empêche pas d'être un grand receveur. C'est Wes Welker moderne, je trouve. C'est Wes Welker, mais avec les capacités athlétiques nécessaires dans la NFL moderne. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il n'est pas pour tout le monde, mais par contre, il y en a certains qui vont en être follement amoureux. Spoiler, il y a une mock draft le 6 mars en direct. Soyez là parce qu'il se peut qu'on en parle plus tôt que vous ne pensez. Mais voilà, c'est un joueur que, encore une fois, ça, il va diviser hein, forcément tous les joueurs ont des pour et des contre. Et il y a un sample, comment dire, un échantillon qui est limité. Mais malgré tout, je pense que c'est un joueur qui va faire tourner des têtes. Et je
Juste
ne
un
sais pas.
petit,
Oui?
pardon, vas-y.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il participe au Combine? Parce que je suis un peu perdu sur qui
Il me
participe
semble
quoi.
que oui, mais alors justement, alors je ne sais pas si c'était ton inquiétude par rapport à ça. Petit bémol, c'est qu'il a malgré tout pas mal de petits pépins physiques en 2023.
Ben justement, voilà, c'était savoir s'il était à 100% et s'il participait au Combine. Écoute, en tout cas, s'il participe, je pense qu'il peut exploser. Enfin, s'il participe. À 100%, évidemment.
Oui, je te rejoins 100% là-dessus.
Dans notre tier 3, le prochain, c'est ton chouchou, on peut le dire. Tu as voulu absolument que je mette. Non, pas du tout. Il a fallu que je me batte pour l'inclure. C'est Roman Wilson de Michigan. Écoute, vous avez aimé Ladd McConkey, vous aimerez Roman Wilson. On est là encore peut-être sur un joueur.
Générationnel?
Fait pour le
Ah, pardon.
sot, mais pour le coup, je trouve qu'il joue très physique, beaucoup plus physique qu'on ne pourrait le croire. Je trouve que c'est un joueur qui a des mains incroyablement sûres, qui est extrêmement rapide, qui a à peu près tout pour plaire, mais, et je suis désolé, mais ça va rejoindre un peu le podcast où on parlait de JJ McCarthy. Quand tu joues à Michigan, être receveur ou être quarterback, ça aide pas forcément à définir à quel point tu es polyvalent ou à quel point tu peux avoir du volume de production. Parce que quand tu as ton quarterback qui lance 15 passes par match, c'est difficile non plus d'accumuler les stats. Et du coup, je trouve que là encore, je dis pas mal de choses. Et les arbres de tracé est limité. Oui, mais là encore, est-ce qu'il y peut quelque chose? Je suis pas sûr. Je disais aussi que des gardes après réception n'étaient pas forcément là. Oui, mais quand vous regardez les types de tracés qu'on lui demande, il n'a pas non plus pléthore d'opportunités de gagner des yards après réception. Donc je trouve que, là encore, il y a une partie fantasme, mais je trouve que c'est le joueur tellement sous-utilisé par son université, parce que Michigan, c'est course, 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 qu'on a peut-être là un talent et qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu en penses ?
T'es en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'il soit sélectionné par les Chargers, du coup.
Pourquoi ?
Bah, par rapport au fait que Jim Harbaugh est susceptible de l'utiliser dans un système un peu...
J'ose espérer que Jim Harbaugh utilise un peu Justin Herbert quand même, hein, parce que bon, si commence à nous faire 35 yards, 35 courses par match, il y en a qui vont exploser leur crâne. Mais du coup, toi, tu étais un peu plus réservé sur le profil.
Alors, je n'étais pas réservé sur le talent de Roman Wilson, parce que le talent est ce qu'il est. Moi, j'avais un peu plus de... En fait, je pinaillais un petit peu plus peut-être sur d'autres joueurs que je voyais peut-être sélectionner un peu plus haut que lui. Je pensais à des profils assez atypiques comme Malachi Corley, par exemple, voire Xavier Leggett, qui n'est pas du tout dans le même registre. On va le dire très clairement.
Ça, c'est clair.
Voilà. Après, oui, globalement, ce que tu dis, je l'entends. Il y a en effet, c'est un joueur qui est assez dur au mal malgré son profil un petit peu plus petit. Il me semble qu'il est légèrement plus petit. Oui, il doit être à 1,78 également. Roman Wilson, je pense, un peu plus petit que Claude McConkie, mais c'est sûr
ça
que
dépend si c'est l'université qui mesure ou pas, tu sais. Selon son université, il fait 2,12 m, mais après, voilà. Faudra voir au combine. Hein.
Mais voilà, après, c'est sûr que c'est un joueur, en effet, ça fait partie de ces receveurs, en effet, qui sont capables de faire pas mal de choses. Et en plus, je pense que ça va être un joueur extrêmement précieux, notamment sur les retours de coups de pied. On enregistre cette émission avant le combine. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut marquer des gros, gros points, continuer d'en marquer en tout cas, parce qu'on a vu, en effet, un très bon senior ball, une capacité notamment à pouvoir bien se démarquer. Hein. On se rappelle notamment de ses 1 contre 1 face à Quinion Mitchell, qui n'est pas le premier venu non plus dans cette QV, le cornerback de Toledo. Donc oui, le profil me paraît assez complet, malgré tout, pour les contraintes qui peuvent être les siennes, à savoir en effet ce côté gabarit qui peut le desservir, notamment dans une classe comme celle dont on parle. Voilà. Après, je n'aurais pas énormément de choses à remettre en cause le concernant. Il y a un développement que je trouvais un peu tardif malgré tout du côté de Michigan. C'est un joueur qui a mis beaucoup de temps à se mettre en avant, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais du coup ça pose la question potentiellement de ce fameux plafond, là encore, savoir ce que tu peux en obtenir sur le long terme. Mais si on reste sur un point de vue purement talent intrinsèque, ce qu'il peut éventuellement offrir comme possibilité en tant que simple slot receiver, si je peux parler ainsi, voire joueur d'équipe spéciale capable de débloquer des situations, oui, en effet, ça peut être une bonne pioche. J'ai du mal à le voir au-dessus d'un troisième tour, moi, personnellement, au-dessus d'un début de troisième tour, mais j'entends ceux qui sont totalement convaincus par le fait que Roman Wilson soit un joueur peut-être un peu plus précieux que l'impression qu'il me donne.
Ouais, tu vois, pardon, je suis un peu centré, mais bon, les gens savent, c'est mon équipe, mais tu vois, les Eagles en 50, qui ont un Devonta Smith et qui ont un A.J. Brown sur les côtés, qui mettent un milieu de second tour sur Roman Wilson, me choquerait pas, personnellement.
Non,
mais oui, je pense que le consensus est peut-être plus fin de deuxième tour. Quand je disais que les mesures, et il fallait souvent attendre le combine, hein, on se souvient, je crois que c'est 2019, où il y avait eu symboliquement plus de 51% des joueurs qui étaient plus petits au combine que dans les mesures d'université, hein. Dont certains qui avaient perdu 6 cm quand même. Donc, c'est quand même, il y a des choses.
Après, j'ose espérer que on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais j'ose espérer que les scouts font un peu leur devoir quand même et arrivent à rechecker un petit peu tout ça, enfin, en tout cas, avoir le fin mot, parce que oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu grotesque.
Je suis d'accord, mais c'est tu sais, parfois, la NFL, c'est un grand cirque. On va retourner sur les tours de contrôle. J'ai jamais vu autant de joueurs qui font plus d'1,90 m sur une QV. Enfin, j'ai vraiment l'impression que cette année, on a un nombre de tours de contrôle assez incroyable. On va parler d'un joueur de Texas. On va parler de Adonai Mitchell. Alors, Adonai Mitchell, justement, c'est celui que toi, tu as un peu poussé pour absolument être là, enfin, qui te semblait pour toi incontournable. Qu'est-ce qui fait d'Adonai Mitchell un joueur incontournable pour toi, en tout cas dans les deux premiers tours, si je suis logique?
Alors, j'insiste bien sur un point, c'est que, à mon sens, Mitchell faisait plus sens que Wilson, parce que je pars du principe qu'il sera sans doute un peu plus considéré par plus d'équipes dans les boards. C'est vraiment plus optique.
Voilà, parce qu'il coche plus de cases physiques, déjà.
Voilà. C'est vraiment, encore une fois, d'un point de vue préférence, il y a des choses qu'on va aimer chez Wilson, il y a des choses qu'on va aimer chez Mitchell. Mais globalement, voilà, j'aime bien les deux joueurs, mais je vois forcément plus d'éléments qui peuvent susciter une certaine excitation chez les franchises NFL concernant Adonai Mitchell. Encore une fois, forcément, le premier point, c'est d'un point de vue gabarit. Et après, en fait, le souci avec Adonai Mitchell, c'est que c'est un joueur dont on voit, dont on a vu vraiment sur certaines fulgurances, tout ce qu'il est capable de devenir à l'échelon supérieur. Et je sais que, par exemple, alors, il me semble que PFF, par exemple, l'avait comparé à T. Higgins. Je suis assez d'accord avec cette comparaison-là, dans le sens où c'est clairement pas un receveur numéro 1 à l'heure où il va arriver en NFL, mais de par sa capacité de tracer, la vitesse qu'il a, la capacité à être assez solide en homme à homme, et encore une fois le physique dont on parlait tout à l'heure, c'est un joueur qui honnêtement peut, dans un coaching staff qui vraiment l'implique totalement, devenir un joueur excellent, et vraiment un joueur qui va progresser et qui peut rapidement devenir, à l'issue de ce contrat rookie, un receveur numéro 1 dans n'importe quelle équipe NFL. Maintenant, il faut aussi réussir à se mettre un petit peu la tête à l'endroit. Là aussi, c'est un joueur qui s'est un peu développé sur le tard, parce qu'à Georgia, sa première année, il n'était pas forcément mis en avant. La deuxième année, il se blesse de mémoire. Et c'est vrai que du côté de Texas, il était beaucoup plus mis en avant cette année, mais dans une attaque aérienne qui était assez partagée, avec par exemple un Xavier Worthy ou un JT Sanders, par exemple, qui sont deux joueurs respectivement au poste de receveur et de tight end, qui seront à surveiller dans cette QV de draft. Donc c'est vrai que il y a des éléments qui font que tu te dis que là aussi, d'un point de vue purement cochage de cases, si je peux parler ainsi, c'est un joueur qui, là encore, laisse entrevoir d'énormes promesses. Maintenant, d'un point de vue exécution, il faut aussi que ce soit un joueur qui soit pleinement focalisé, qui ne se repose pas sur ses acquis. Tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure d'Odonze. Bon, on est peut-être sur un Rome Odonze du pauvre. C'est-à-dire un joueur qui n'a peut-être pas ses facilités aujourd'hui qu'à Rome Odonze, qui a tous les outils à disposition, mais qui, lui, les utilise encore moins. Et c'est là où vraiment l'importance du coaching staff va être cruciale pour le joueur des Longhorns.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur qui est presque un peu frustrant, parce que je regardais un peu les stats. Les yards après réception, il n'est même pas dans le top 350. Les plaquages manqués, il n'est même pas dans le top 200. Tu te dis, en fait, tu as l'impression qu'une fois qu'il a attrapé le ballon, il est très bon pour attraper le ballon, mais une fois qu'il a attrapé le ballon, plus rien ne se passe. Et c'est frustrant, parce qu'un joueur avec son physique doit pouvoir créer des choses par lui-même. Donc, je trouve qu'on est sur un joueur, quand il est en feu, il est vraiment inarrêtable, qui est quand même plus constant que certains ne veulent le faire croire. Et je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, tu adores l'avoir en numéro 2, et si ça se développe bien, ça peut devenir un numéro 1. Je pense juste qu'il faut qu'il devienne un peu moins frustrant et un peu... Voilà, je pense qu'il y a encore... Mais d'un autre côté, c'est aussi ça que tu recherches dans la draft. C'est qu'il y a encore une grosse marge de progression, ce qui est déjà très bon, mais je pense vraiment que la marge de progression est nette. Et je pourrais comprendre une équipe qui, là encore, allez, pourquoi pas une fin de premier tour, un début de second tour, parce qu'ils sont vraiment amoureux de joueurs. Mmh. Je tombe pas de ma chaise.
C'est là-dessus où je me dis, fin de premier tour, ça me paraît peut-être un petit peu boursouflé, même dans cette classe où il y a peut-être encore une fois des profils qui se disputent un peu. On parlait de Franklin et de Thomas tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une équipe qui, en étant totalement amoureux de Mitchell, peut éventuellement tenter le pari. Pour moi, c'est plus une sélection entre les picks 32 et 50. Typiquement, ça va. Et encore une fois, je prenais l'exemple de Higgins tout à l'heure. C'est en début de deuxième tour qu'il a été sélectionné par les Bengals aussi, parce qu'il y avait des petits points d'interrogation là-dessus, parce qu'on voyait le talent énorme qu'il avait, mais qu'il fallait sans doute un petit peu plus polir à l'échelon supérieur. Mitchell a cette capacité. Il a déjà démontré qu'il était capable d'être un joueur clutch. En demi-finale des playoffs en 2022, c'est lui qui réceptionne la passe de Stetson Bennett dans la end zone pour permettre aux Bulldogs d'aller en finale et de devenir champion national par la suite. C'est lui qui a sonné un petit peu la révolte en demi-finale des playoffs cette année avec Texas face à Washington, même s'il n'y a pas eu de victoire au bout pour les Longhorns. Donc voilà, quand il faut que quand il est capable de prendre feu, d'être une menace également dans la zone rouge, parce que ça, c'est difficile à occulter, surtout vu son gabarit et sa capacité à mettre à mal les cornerbacks adverses, c'est un joueur qui peut être éminemment précieux. Mais très honnêtement, là encore, la marge de progression semble excitante, mais il faut savoir à partir de quand vraiment tu peux en obtenir le plein potentiel.
Je suis d'accord, mais pour le coup, voilà, ça fait partie des joueurs où là encore, c'est toute une partie de projection. On n'est pas sur un top 3 joueur de cette draft, mais on est peut-être sur un des joueurs qui peut encore le plus grandir, entre guillemets, si on peut dire comme ça. On arrive au bout de nos 9 profils, on en aura encore d'autres qu'on aura l'occasion d'évoquer au moment des pastilles. Évidemment, les 32 pastilles, 32 jours avant la draft, ça va arriver plus vite qu'on ne croit, hein. On aura l'occasion de revenir vers vous sur tous ces profils. Le prochain épisode, je ne me souviens plus. Ah oui, ben c'est les débriefs du Combine. C'est les débriefs du Combine, évidemment, puisque à l'heure où vous écoutez ce podcast, le Combine a commencé. On est en plein dedans. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Touchdown Actu, mais également, je crois que c'est sur NFL Network hein, cette année encore. Il me semble
oui.
la
changé,
diffusion,
ouais.
Si ça n'a pas changé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un Game Pass annuel, par exemple, vous pouvez suivre la foire aux bestiaux, qu'on appelle aussi le Combine. Et nous, on reviendra pour vous débriefer ça le 5 et le 7 mars. D'ailleurs, je crois que Grégory, tu seras là sur l'attaque et moi sur la défense, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on reprendra avec les linebackers, les tackles, les cornerbacks, les running backs, les safety. Il y a tellement de choses à vous dire. Il nous faut beaucoup de podcasts pour ça. Merci Grégory.
Merci à toi.
Merci à tous et bon week-end. Salut, salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.